Bien. Alors, je vais vous parler de Galilée. C'est au tournant du XVIIe siècle que naissent la physique et la science moderne. Et contrairement à l'étude de la nature d'Aristote, elle vise à découvrir les lois qui régissent la nature grâce au langage mathématique et à la méthode expérimentale. Celui par qui tout commence est Galileo Galilei, que les Français appellent d'une manière plus brève Galilée. Il est mathématicien, physicien et astronome. Ses travaux sur le pendule, la densité et la résistance des matériaux, la lunette d'approche qu'il braquera le premier vers le ciel, entre autres, il y a beaucoup d'autres sujets dans son parcours, lui permettent de révolutionner nos connaissances sur le système solaire et l'espace et de définir les grandes bases méthodologiques sur lesquelles s'appuiera la science moderne. Il est né à Pise le 15 février 1564 dans le Grand-Duché de Toscane. Que je me mette au rythme. Il est né au lendemain de la paix de Cateau-Cambrésis, et même d'être-été, qui mirent un terme au conflit entre la France d'une part, l'Espagne et l'Angleterre d'autre part. Ils marquèrent aussi l'abandon des cavalcades des rois de France depuis quelques siècles sur le territoire de la péninsule italienne. C'est aussi le début de la prédominance espagnole sur l'Europe, et en particulier sur l'Italie, où on voit que la zone espagnole, c'est tout le sud. J'ai un problème de souris. C'est tout le sud. C'est aussi le duché de Milan et les petits principes devant la Toscane. Donc c'est une grande partie de l'Italie. En même temps, on est dans la période qui est caractérisée pour la papauté par la suite du Concile de Trente, qui était entre 1545 et 1563. Ce concile a préparé le vaste mouvement de la contre-réforme, celui que Régine Pernoud qualifiera de coupure entre l'Église médiévale et l'Église des temps classiques. Galilée est le fils de Vincenzo Galilei et de Giulia Amannati di Pescia. Il est l'aîné de leurs sept enfants. La famille appartient à une petite noblesse et gagne sa vie dans le commerce de la laine. Mais la passion est l'autre métier du père et dans la musique. Il est luthier, musicien, chanteur. Il participe à des controverses. Il écrit un livre qui sera publié en 1581, Le dialogue entre la musique ancienne et la musique moderne. À cause du climat économique, ils doivent quitter Pise rapidement, c'est en 1574, et ils s'installent à Florence où les affaires devraient mieux fonctionner. Pour plaire à son père, Galilée va s'inscrire à la faculté de médecine. Souvent, les parents veulent que les enfants deviennent médecins. C'est encore un. Ça l'intéresse très peu, pour quelle raison, on ne le sait pas trop. Et il suit plutôt des cours de mathématiques. Il a la chance d'avoir le mathématicien de la tour de Toscane. C'est une époque où il y avait des astronomes, des mathématiciens dans les cours, et ce mathématicien lui a donné les grandes bases de la géométrie. Il suit aussi les cours de Francesco Buonamici. Ce sera plus facile à lire. Buonamici, voilà. Il est médecin, mais il est surtout professeur de philosophie naturelle. La philosophie naturelle, à cette époque, c'est l'étude objective de la nature et de l'univers physique qui régnait avant que la science devienne une discipline dans les universités. Ça regroupe en fait à peu près le champ des facultés de sciences d'aujourd'hui. Les mathématiques, la physique, les mathématiques sont un peu hors, mais la physique, la chimie, la biologie, l'astronomie. C'est aussi un helléniste et un latiniste. Qui travaille beaucoup à partir des textes anciens, comme un peu tout le monde d'ailleurs à cette époque. Averroès, Aristote font partie de son bagage, il les commente, il met en avant le rôle de l'expérimentation, il sépare, lui, franchement, les mathématiques de la philosophie naturelle. Donc, c'est un homme à large spectre qui entre dans la vie active, Galilée, puisque, outre son appétit pour la science, il a aussi de grandes connaissances en matière de littérature. On lui doit des commentaires érudits sur la Jérusalem délivrée du Taste et Roland Furieux de l'Arioste, ainsi que deux conférences sur la topologie de l'enfer de Dante, j'y reviendrai. C'est bien un humaniste, il n'y a pas de doute là-dessus. Pour compléter son caractère, notons une poésie burlesque qu'il a rédigée contre le port de la toge, qui révèle dès cette époque le caractère militant de son aversion pour les structures conservatrices qui nuisent à l'indépendance de l'esprit. Voici le lustre du dôme de Pise, de la cathédrale de Pise. Alors ce lustre, est-ce celui-là, j'en doute, mais enfin, entre, c'en était d'autres, donc, qui pendaient dans la cathédrale, et ils sont entrés dans l'histoire, parce qu'un jour où Galilée s'ennuyait à la messe, eh bien, il a regardé les lustres, il s'est dit, c'est curieux, lorsque le mouvement est d'assez grande amplitude, il y avait deux raisons pour un mouvement, hein, c'est soit il y avait des courants d'air, ce qui est possible dans les cathédrales, soit on venait d'allumer ou d'éteindre les bougies, et donc ça faisait bouger tout ça. Et il s'est aperçu que lorsque l'amplitude était importante, le mouvement était rapide, et lorsque l'amplitude était faible, le va-et-vient, hein, eh bien le mouvement était lent. Alors ça l'a intrigué, puis il s'est dit, ben, je vais essayer de mesurer ça. À l'époque, le chronomètre n'existait pas, les montres non plus. Eh bien, il s'est rabattu sur son corps, sur le pouls, je ne sais plus comment on dit ça, par là, et il a mesuré les mouvements d'un des lustres. Donc il s'appuyait sur son rythme cardiaque qui était régulier pour trouver la mesure du temps. Et il découvrit que quelle que soit l'amplitude du mouvement, le temps pour effectuer un aller et retour était le même. Petit mouvement ou grand mouvement, ça mettait le même temps. Il venait de découvrir une des grandes lois du pendule, une loi qui allait permettre d'améliorer notablement la qualité des horloges. Alors, cette loi a pris le nom d'isochronisme du pendule. Ça marche lorsque les oscillations sont de faible amplitude. Si on agrandit trop, bien sûr, ça se désaccorde complètement. Mais vous avez tous vu les horloges comtoises et vous avez vu que l'oscillation était extrêmement faible. Donc c'est le cas où on a une quasi-application de ce qu'a trouvé Galilée. Dans le temps, je faisais de l'histoire des techniques et je suis retombé sur un livre de David Land, qui est, je ne sais plus s'il est anglais ou américain, parce que j'ai quand même ça depuis longtemps, qui est de 83 et qui s'appelait « L'heure qu'il est ». Il était sous-titré « Les horloges, la mesure du temps et la formation du monde moderne ». Et j'ai eu la curiosité d'aller voir un peu ce qu'il disait de la trouvaille de Galilée. Et il dit, il parlait donc du système d'horlogerie qui, à ce moment-là, était le plus répandu. Il dit, en tout cas, il fut rendu obsolète et en fait condamné à l'oubli par l'horloge à pendule conçue par Galilée et réalisé sous une forme, je montre, il arrive, par Christian Huygens. C'était un Hollandais. Ça a été fin 1656, donc c'est beaucoup plus tard que que la période de Galilée est mort depuis à ce moment-là, une quinzaine d'années. Alors, ce nouveau principe élimina tout simplement le balancier régulateur qu'il remplaça par un pendule suspendu librement à un cordon ou à un fil, et donc largement isolé des perturbations venant du rouage. L'amélioration fut spectaculaire, réduisant d'une variance d'au moins 15 minutes par jour pour une verge avec balancier à 10 ou 15 secondes par jour. Vous voyez, donc c'est un facteur plus 60, pratiquement 100, donc c'est énorme l'amélioration des horloges de l'époque. Et il complète. Et le dispositif était d'application si facile que dorénavant, toutes les nouvelles horloges furent construites de cette manière. Et que les horloges existantes furent massivement transformées, il est difficile de trouver une horloge verticale plus ancienne qui n'ait point été modifiée en ce sens. Donc, voilà l'exemple du transfert, disons, de données scientifiques vers la technique. C'est l'une des toutes premières. Les sciences auparavant sont complètement disjointes de la technique. Donc l'idée qu'on a aujourd'hui, qui était le slogan de la l'exposition universelle de Chicago en 1931, où on dit la science trouve, la science applique, la technique applique, je veux dire, la science trouve, la technique applique et l'homme suit, c'est assez étonnant d'ailleurs ce genre de slogan, eh bien, à cette époque, ça n'existe pas du tout. Ça sera à partir du 19e siècle que réellement la science sera massivement appliquée dans la technique. Je passe sur Christian Huygens. Alors, bon, je ne commande pas toutes les images. On a une deuxième invention qui est relevée. C'est la bilancetta, c'est une balance. À partir de 1585, il enseigne les mathématiques, mais pas à l'université, c'est plutôt des cours privés qu'il donne. Et en même temps, il écrit, il fait des recherches, il écrit. Et donc, il y a cette histoire de petite balance, une petite balance, dans laquelle il reconstitue la balance hydrostatique d'Archimède. Archimède vivait donc en Sicile à peu près au 3e siècle avant notre ère, et il était à Syracuse avec pour roi ou despote plutôt Hiéron. Et Hiéron voulait une couronne, et il avait un doute sur l'honnêteté du joaillier qu'il a fabriqué, et il se disait, je vais donner un tas d'or pour qu'il fasse cette couronne. Et il a des doutes, il pense qu'il a rajouté autre chose dedans et puis qu'il a piqué une partie de l'or. Archimède, qui était très jeune, il avait 22 ans, il lui a posé la question, et Archimède donc a inventé un système qui faisait que lorsque l'on plongeait la couronne dans l'eau, il y avait un débordement, et à partir de là, il pouvait mesurer la densité en faisant une balance, mais je ne rentre pas dans les détails. Et à partir de là, s'il plongeait un poids similaire d'or dans l'eau, eh bien, on devait avoir la même valeur s'il avait mis que de l'or. S'il avait mis un autre matériau, un autre métal à l'intérieur, caché je ne sais où, eh bien, il y avait un défaut de poids. Alors, dans ce cas-là, Archimède a rapidement pu voir qu'effectivement une partie de l'or avait été détournée. Donc c'est un peu la même balance qu'a reconstruit Galilée, et il a fait un texte assez long là-dessus, dont voici une partie. Alors il essaie de se placer, Galilée essaie de trouver un poste, et c'est pas simple, il se déplace à Rome, il rencontre Clavius. Clavius, c'est quelqu'un d'important. C'est un grand savant de l'époque, c'est sur lui qu'a reposé toute la réforme du calendrier grégorien. Donc c'est pas une petite affaire au niveau compréhension de l'espace, au niveau... il fonctionne encore, même si tous les quelques années, on apprend qu'on doit rajouter quelques secondes pour rééquilibrer le tout. En fait, le système, cette fois-ci, fonctionne. On était parti de celui de Jules César, et il y a eu une grosse amélioration grâce à lui. Donc c'est quelqu'un de grande valeur scientifique. On l'avait surnommé d'ailleurs l'Euclide du XVIe siècle. C'était aussi un mathématicien. Donc il lui transmet des résultats de travaux qu'il avait fait sur le centre de gravité. Galilée, il le connaît. Clavius apprécie. Il le présente à d'autres jésuites et il essaie de le recommander, mais ça ne marche pas tellement. Ses recommandations, enfin ça finira par marcher de toute façon, mais à ce moment-là, ça ne marche pas. Entre-temps, il a eu une prestigieuse commande, Galilée, c'est en 87, il a 24 ans, et les membres de l'illustre Académie Fiorentine, comme il est professeur, il enseigne les mathématiques, disons, il n'est pas encore vraiment reconnu à l'université, il lui demande de prononcer deux leçons sur la forme, le site et la grandeur de l'enfer de Dante. Vous voyez le problème. Il s'y colle, comme on dit, et il va essayer de comprendre les dimensions que Dante a voulu donner à l'enfer. Alors en fait, il y a une controverse entre deux, je ne sais pas trop ce qu'ils étaient, peut-être sans doute un peu des scientifiques tout de même, Antonio Manetti, qui en 1506 a fait des dessins de l'enfer. C'était une chose très à la mode. Botticelli a fait des dessins de l'enfer, a fait même un bouquin. Il avait un peu la même forme, d'ailleurs, une sorte de cône. Et il y avait un Lucquois, dont j'ai oublié de noter le nom, qui avait fait à peu près la même chose, mais en beaucoup plus petit. Donc le rôle de Galilée était de trancher entre les deux. Il est clair qu'il a tranché pour le Florentin, donc pour ce Manetti. C'est quand même une chose intéressante. Bon, d'abord, ces leçons qui ont été republiées en français, j'ai mis la couverture du bouquin il y a quelques années, sont complètement surréalistes donc pour nous, puisque cet enfer consiste en un cône dont le centre est au centre de la Terre, où se trouve d'ailleurs le nombril de Lucifer, quand il le visitera, et il y a les différents cercles de l'enfer, et en haut, il y a donc, on voit la courbure du globe terrestre, et au-dessus, Jérusalem, ça tombe pile dessus, c'est là l'entrée de l'enfer. Donc c'est assez étonnant tout ça. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, il pose pas mal de questions, finalement, avec des relents scientifiques, mais la grande question qu'il va se poser, et ça va le suivre un peu toute sa vie, c'est la résistance de la calotte terrestre qui sert de voûte à l'enfer. C'est un vrai problème, parce que imaginez qu'elle casse, ça poserait quand même des sérieux problèmes. Donc, il faut essayer de voir si ça peut tenir, cette histoire. Alors, a priori, les dimensions qu'il donne, c'est quand même, pour la partie haute, 6400 km. Hein, c'est le rayon de la Terre. Donc il y a de la place, on peut dire, dans l'enfer. L'épaisseur de la calotte ici serait de 800 km. Est-ce que ça peut tenir, finalement, c'est la question, avec ce genre de valeur. Bon, ce n'est pas très au point à cette époque, la résistance des matériaux, mais néanmoins, on a construit énormément d'églises, en particulier à Florence, où il y a eu le dôme construit par Brunelleschi, qui fait 32 mètres de large sur à peu près un mètre d'épaisseur. Enfin, c'est spécial parce qu'il y a c'est un double système. Donc, il faut considérer qu'à 32 mètres de large, avec un mètre, ça colle. Bon, si on prend Galilée dit, je prends les proportions, 6400 divisé par 32, enfin, un système de proportions, qui fait que finalement, ça correspond à 4 mètres d'épaisseur si on le ramène aux 32 mètres de largeur. Les 6400 km ramenés aux 32 mètres, 800, j'aurais dû écrire ça aurait été mieux, mais là c'est compliqué, 800 km, et donc on arrive à peu près à 4 mètres d'épaisseur. Et il dit, bon, ben, il n'y a pas de doute, puisqu'à Florence ça tient avec un mètre, ça doit tenir. Bon, etc. Bon, il y a vraiment beaucoup d'autres choses, la pente des cerfs, etc., qui sont traitées, beaucoup de choses sont traitées, c'est très curieux comme affaire. Et puis, ultérieurement, il a dû comprendre qu'il s'était complètement trompé dans son calcul. Et dans sa correspondance et son œuvre, c'est des paquets de livres énormes. Il y a plus de 20 tomes actuellement de ses travaux, donc il y a beaucoup d'écrits sur Galilée. Pour les chercheurs, il n'y a en tout cas pas de problème pour trouver du nouveau. Et là-dedans, certains ont dit qu'il ne donnait plus ce texte, parce qu'il l'avait donné, il avait été édité, puis il le trouvait. Et lui, il ne le trouvait plus, soi-disant. Et puis, bien plus tard, parce que ça, j'ai dit, ça s'est passé en 1587, eh bien, en 1636, il rédige un livre donc, qui est précisément un peu sur ce sujet, et qui va parler de la résistance des matériaux. Et là, il dit, il faut faire très attention... Il prend des exemples d'animaux dedans, et même des représentations des os, de gros os, et il prend un exemple de cochon et d'éléphant. Le cochon est petit par rapport à l'éléphant, ça fait quoi, 60, 70 cm, 80 peut-être, hein, il doit avoir plein avec les espèces qui existent, ça doit être compliqué, mais bon, prenons cette valeur. Et un éléphant, ça peut monter à plus de 3 mètres. Imaginons qu'on grossisse un éléphant, on grossit le cochon à la taille de l'éléphant. Eh bien, à ce moment-là, on remarque tout de suite que les pattes du cochon, là, j'ai mis à peu près les dimensions, l'éléphant est un peu plus grand quand même, mais regardez, les pattes sont toutes grêles, et celles de l'éléphant sont beaucoup plus épaisses. Effectivement, augmenter les proportions ne suffit pas, parce que ce qui est le volume du corps, ça augmente en fonction, comme un volume, c'est-à-dire un facteur en trois dimensions, alors qu'ici, pour les eaux, ça ne va augmenter que comme une surface. Donc, on n'aura pas la proportion qui fait que ça tient. Ce qui fait que si on agrandissait la coupole de Florence à des dimensions énormes, en gardant la même épaisseur pour la voûte, pour le dôme, eh bien, elle s'effondrerait immanquablement parce qu'elle serait trop lourde. Donc, ce qu'avait expliqué dans ce texte Galilée, une cinquantaine d'années après, il revient en arrière et il explique que ça ne peut pas marcher. Retournons dans l'enfer. Bon, il y a plein d'autres problèmes. Parce que quand il se balade avec Virgile dans l'enfer, Dante, il parcourt des distances inouïes, puisque ça fait 6400 km de large. Mais en fait, ils font ça en 3 jours. Donc, c'est un peu ridicule donc, comme système. Ça, il n'en parle pas du tout. Remarquons que les conférences, les leçons sont données en italien et pas en latin. Et que les textes qui suivent aussi. Que la majeure partie de l'œuvre de Galilée est en italien. Il y a des livres en latin, hein, mais la majeure partie est en italien. Et si on fait aussi un autre rapport à la science moderne, un peu après, c'est la naissance des académies. Hein, il y a la Royal Society, je crois que c'est, si je me souviens bien, 1662. L'Académie des sciences, ça va être vers 66. Et là, tous ces gens s'expriment dans leur langue nationale. Ils n'utilisent pas le latin. C'est assez curieux. Et aujourd'hui, alors qu'on a d'autres moyens de traduction, on dit qu'il faut que tous les scientifiques écrivent en anglais. C'est juste un petit problème assez curieux. Et à l'époque, ils échangeaient, il n'y a aucun doute là-dessus, autant qu'aujourd'hui. On remarque aussi dans ce texte l'ironie de Galilée, qui est c'est la seule fois où j'en parlais, mais c'est vraiment une chose où il est très fort. Et il dit, à un moment donné, il regrette l'absence de toute étude sur ce lieu où il est si facile de descendre et où il est si difficile de sortir. Alors, Galilée obtient finalement une chaire de mathématiques, il va falloir que j'accélère, à l'université de Pise en 1586. Il y passera trois ans et il essaiera de partir parce que la paye n'est pas du tout importante. Les mathématiques, c'est presque la dernière des choses dans cette université. La théologie et la philosophie sont bien au-dessus. Et son père décède en 1591 et à ce moment-là, il devient le chef de famille. Il faut s'occuper de donner une dot à la sœur. Il faut le frère est à peu près bon à rien, donc il faut bien l'entretenir. Etc. C'est assez compliqué sa vie. Et il essaie de trouver un autre poste et il va le trouver grâce à Guidobaldo del Monte, qui est le frère d'un cardinal et qui est un mathématicien. Et donc, il va pouvoir partir à Padoue et avoir un salaire 3 fois supérieur. Il va enseigner là-bas la géométrie d'Euclide et l'astronomie que l'on dira standard. Je parlerai tout à l'heure de l'astronomie de cette période et bien avant, parce qu'elle vient des Grecs, hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc il ne va pas enseigner l'astronomie de Copernic, parce que d'abord c'est un sujet qui pose des problèmes. Alors, durant ces 18 années passées à Padoue et à Venise, puisque ces deux villes sont quasiment jumelles, il dit que c'est les plus belles de sa vie, il donne des cours, il a un bon succès, il imagine des expériences, il fabrique des instruments, etc. Il fait des livres. Remarquons, il va souvent à l'arsenal de Venise, et on trouve dans un de ses livres, ces quelques phrases, « Quel vaste champ de réflexion s'ouvre aux esprits spéculatifs qui fréquentent le fameux arsenal de Venise. Je m'y rends souvent pour mon plaisir, et j'y recherche la compagnie des ouvriers. Leur conversation m'a aidé plus d'une fois à comprendre les causes de phénomènes inexpliqués. Toutes sortes d'instruments et de machines y sont constamment mis en œuvre par un grand nombre d'artisans qui allient la plus grande habileté au jugement le plus pénétrant. Il connaît beaucoup de monde, il est en correspondance avec beaucoup d'autres scientifiques au niveau européen, comme Kepler en particulier. Alors, pour vivre mieux, il fabrique des instruments de mesure qu'il revend. C'est pas les siens, ceux-là, je prends un peu ça au hasard, disons. Il donne des cours particuliers à des étudiants. Donc, la vente des instruments scientifiques, pour cela, il engage un mécanicien qui, à demeure, va fabriquer les instruments. Donc, c'est toute une industrie. Il s'appelle Marco Angelio. Mazzeleni. Donc chez lui, c'est une véritable ruche. Il rédige des traités sur les fortifications, sur la mécanique. Il travaille. Ah, j'ai oublié de parler de celui-là avant, j'avais pas vu quand même là. Le compas de proportion, voilà des genres d'instruments qu'il fabrique. Pour le compas de proportion en haut, c'est l'ancêtre de la règle à calcul. Les règles à calcul, je m'en suis servi quand j'étais étudiant. J'avoue que j'aurais peut-être. Bon, j'y arriverai, mais je pense, mais j'aurais un peu de mal. J'ai vu arriver les calculettes vers 73-75, qui coûtaient fort cher à l'époque. Et voilà donc ce compas de proportion qui ne s'emploie pas tout seul. Il faut avoir avec un compas à pointe sèche, plus un compas avec une pointe et un crayon. J'ai pas vraiment compris comment ça marchait. Un peu le rôle de la règle à calcul. C'est important, je le dirais, pour une seule raison. C'est que dans l'encyclopédie Diderot et d'Alembert, il y a 8 pages sur le compas de proportion. Donc, c'est quelque chose d'important à l'époque. Ça s'arrête un peu après, quoi. Ils vont disparaître. Un compas géométrique et militaire qu'il crée, on voit un peu le fonctionnement ici, pour mesurer, donc, par exemple, quelque chose dont on ne peut pas accéder. Vous voyez comment il est placé à cet endroit-là, un fil à plomb, etc. Je ne rentre pas dans les détails parce que je n'y arriverai pas. Alors, je continue. Un tout petit mot sur les projectiles, ça, il s'y intéresse. J'ai pris un livre du passé, Niccolò Tartaglia, j'en avais parlé il y a quelque temps. Et on voit ici un tir d'obus et puis un autre là. Hein. Vous voyez, les courbes sont assez curieuses. Une page encore de Tartaglia où on voit que c'est Galilée qui montrera que c'est une parabole, le tir d'un obus. C'est-à-dire, finalement, il y a une symétrie, disons. Et à cette époque, ça partait tout droit. C'est-à-dire, ils ne savaient pas que la pesanteur poussait vers le bas, ils ont des forces exercées, qui faisaient que dès le départ du canon, pratiquement, la courbe commençait à s'arrondir. Ici, c'est droit. Un arrondissement brutal, pour cause d'impétus, il y avait cette notion d'impétus trouvée au Moyen-Âge, qui permettait à des objets qui avaient été lancés, disons, d'accumuler l'énergie, c'était pas du tout le sens, mais c'est bien un peu l'idée, et puis brutalement il s'arrêtait, et là, ça tombait tout droit. On remarque aussi que la courbe, à peu près à 45 degrés, par là, hein, elle tombe entre les deux autres, et c'est celle qui est la plus basse qui va le plus loin. Bon, Galilée, il montre une chose, il montre que ce sont des paraboles, et il montre une deuxième chose, c'est que un boulet de canon tiré, celui qui va le plus loin, part à 45 degrés. Donc c'est deux lois qui sont pas du tout, sur lesquelles il n'y a pas de controverse à l'époque. Le compas, c'est fini. On revient là. La même année, il va rencontrer Marina Gamba, une jeune vénitienne issue d'une famille modeste, avec qui il ne vivra pas, mais avec qui il aura 3 enfants. 2 filles qui deviendront religieuses, l'une Virginie en honneur de son astronome de père, rentrera dans les ordres en étant sœur Marie Céleste. Ça ne s'invente pas. Et il avait aussi un fils, Vincenzo. Encore 2-3 mots un peu sur ce qu'il a fait. Vers 1604, c'est une année importante parce qu'il va tester une pompe à eau qu'il va pouvoir vendre. Il découvre la loi du mouvement accéléré. Et surtout, en fin d'année, enfin, durant cette année, il y a eu une nouvelle étoile, la Stella Nova, que d'autres astronomes ont vue tout de suite. Je pense à Tycho Brahe, le Danois, et à Kepler, l'Allemand. Et donc, c'est un événement considérable. On verra un peu pourquoi plus tard, mais en tout cas, quelque chose qui arrive du fond de l'infini et qui bouge. Il y a des présages derrière tout ça. Les astrologues vont immédiatement faire des prédictions. Mais surtout, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment prévu dans le système d'Aristote. Hein. Qu'il y ait dans des zones, et Tycho Brahe montre que ça vient de très loin, qu'il y ait dans des zones, les zones de la perfection, c'est-à-dire ce qu'il y a après la Lune, du nouveau, c'est pas prévu et ça bouleverse un peu tout le monde. Donc on est à ce moment-là en 1604. Bon, ensuite il est malade, il va être souvent malade, hein. Même tout jeune, il a eu des gros problèmes d'yeux. Après, il va être durement touché par différentes maladies. Et en fin de sa vie, il deviendra aveugle. Alors, il est déjà malade avant de regarder le soleil, disons, dans des lunettes, mais ça n'a pas dû arranger les choses, c'est à peu près une évidence. Il travaille sur les aimants aussi, et on trouve des potences, enfin des systèmes qu'il avait fabriqués pour les analyser au musée des sciences de l'Institut, au musée des sciences de Florence. Alors, on arrive au plan incliné. Comment ? Alors, c'est un plan incliné avec clochette mobile. Alors, je vais vous passer un petit bout de film qui montre un peu ce qu'était Galilée quand même. Alors, les films sont là. Il faut que je regarde le nom avant quand même, puisque j'en ai plusieurs plans inclinés. Oui, c'est assez simple. Ça doit être ça. Je vais prendre la souris, ça sera mieux. Le plan incliné, il est là.
Peut-être que il va aussi, à partir de ça, pouvoir relier la hauteur
de la chute. Il n'est pas au départ.
Par exemple,
2, 3.
Galilée est en train de mettre au point un système révolutionnaire. En utilisant un plan incliné pour faire rouler une bille, le savant a l'intuition qu'en dehors des forces de frottement, la bille subit la même contrainte que la chaîne à verticale. Combiné à une faible inclinaison du plan, le temps de chute est considérablement rallongé, il devient mesurable, mais à cette époque, le chronomètre n'existe pas. Pour mesurer le temps, l'astuce consiste à vider une bonbonne remplie d'eau dans un récipient pendant un laps de temps considéré. Ainsi fait, il ne reste plus qu'à peser le volume d'eau recueilli. Mais la démarche n'est pas aisée, il faut une synchronisation parfaite des mouvements. Et surtout que les vidéos soient concentrées.
Fais attention à ce que tu fais ! Donc, il y a quoi de cette phrase de l'expérience ? Donc, il y a quoi de ce que tu fais là ?
Loin de se décourager, Galilée invente une autre méthode de mesure. Il dispose à égale distance, le long du parcours de la bille, des clochettes qui tintent sur son passage. Contre toute attente, il s'aperçoit que les battements ne suivent pas un rythme régulier. Et réglons les clochettes pour qu'elles sonnent à intervalles réguliers, déplaçons-les le long de la rainure du plan incliné. À son grand étonnement, en mesurant la distance qui sépare les clochettes, Galilée s'aperçoit que les intervalles ont une progression très précise, qui varie suivant un facteur numérique de 1, 4, 9, 16, soit 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré, 4 au carré. Grâce au système du plan incliné, il va mettre en évidence l'existence du mouvement uniformément accéléré et la loi des distances en fonction du carré du temps. Les bases de notre physique sont désormais jetées, du pur génie.
Galilée comprend la nature du mouvement de chute, mais il ne le formalise pas en termes de formule mathématique, parce qu'à l'époque, en fait, on n'avait pas cette façon de formuler la science. Et il parle de la vitesse de la chute, il dit en des temps égaux, on a des additions égales de vitesse, c'est-à-dire que la vitesse augmente avec le temps de chute. Plus le temps de chute est long, plus la vitesse de notre mobile va être grande et plus il va arriver vite au sol. Il va aussi, à partir de ça, pouvoir relier la hauteur de la chute avec le temps de chute. Et par exemple, ce qu'il va nous dire, c'est que si je lance un objet depuis une hauteur qui est 4 fois une autre hauteur, il faut simplement 2 fois plus de temps pour arriver sur le sol.
Concrètement, si une boule met une seconde pour tomber du premier étage de la tour de Pise, lâchée du quatrième étage, elle ne mettra pas 4 fois plus de temps, mais seulement 2 secondes pour toucher le sol.
Voilà, donc je vais montrer un deuxième film assez vite, pour ça je ne remets pas exactement. Donc on est devant le problème de l'expérimentation, on a vu qu'il essaye plusieurs méthodes. C'est bien trop rapide la chute d'un corps, on dit un grave à l'époque, la chute d'un corps. C'est impossible, ils n'ont aucun moyen finalement pour mesurer, et donc à partir de là, il faut trouver une autre solution. Bien sûr que ça a des défauts de mettre un plan incliné, il y a des frottements, il y a plein de défauts. Hein. Mais néanmoins, il arrive à mesurer avec ça. Pourquoi est-ce qu'il arrive à mesurer ? Mais c'est parce qu'il est musicien. Et donc il a le sens du rythme aussi, et ça, ça compte. Et pour les cloches, on le voit d'ailleurs dans le film, il montre bien qu'il est en train de chantonner, et il arrive à avoir, avoir ce rythme pour les cloches. Donc en bousant les cloches à chaque fois résonnent dans un intervalle de temps le même. Donc, je vais montrer un second petit film. Cette fois-ci, c'est sur la chute des corps.
En 1603,
c'est le même film.
Galilée a 39 ans, il est déjà un personnage atypique.
Galilée va développer une lubie personnelle qui est justement la mise en expérimentation de la nature. Et c'est ça qui l'a amené à mettre en doute certaines affirmations des écoles anciennes. Alors, école est à prendre au sens de idées, des idées notamment d'Aristote, qui avaient été reprises par l'Église, le pouvoir de l'Église, lors du Concile de Trente, à la fin du XVIe siècle. Et Galilée va mettre en doute certaines affirmations, et notamment un moyen de les mettre en doute, c'est pas par l'argumentation comme le faisait Aristote, au contraire, c'est la nature qui va donner la vérité. On pourrait dire « in naturo veritas ». Aristote ne faisait pas d'expérience, il regardait, il arrangeait les choses dans un cadre logique et cohérent, dans un discours. Mais Galilée va aller plus loin et se dit, il faut finalement, si on veut tirer l'essence de la nature, il faut aussi bousculer la nature. Et bousculer la nature, ça veut dire faire des expériences. Et à ce titre-là, on peut le considérer comme le père de la science moderne.
Que Galilée ait fait des expériences au sommet de la tour de Pise est une pure légende. C'est à Padoue, en haut du clocher d'une église, que le savant a pour la première fois l'intuition qu'un phénomène intervient dans la chute des corps, la résistance de l'air.
Aristote va affirmer que c'est dans la nature des objets lourds de tomber plus vite que les objets légers. Alors ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu le sens commun, c'est-à-dire si on prend une pierre et une feuille et qu'on les laisse tomber ensemble, on verra la pierre arriver avant la feuille sur le sol. Mais très vite, Galilée se rend compte qu'il faut prendre en compte les frottements de l'air. Donc, il va commencer par comparer la chute d'objets qui ont la même taille, puisque dans ce cas-là, les frottements vont être à peu près identiques, et comparer des boules de nature différentes, par exemple une boule en plomb, une boule en liège, qu'il va laisser tomber.
Pour ses expériences sur la chute des corps, Galilée ne va pas ménager son équipe. La matinée, au dernier étage d'une maison vide, les assistants s'affairent à lâcher simultanément des boules de toutes sortes. Des grosses, des petites, en bois, en fer, en liège, en plomb, à l'arrivée, un résultat se confirme. Chaque fois qu'elles touchent le sol, les boules semblent arriver en même temps. La masse n'intervient pas dans la chute des corps, pense Galilée, sinon le cochonnet en bois serait encore en l'air, que la boule en fer aurait déjà touché le sol. Augmentons la hauteur et soyons encore plus précis dans l'expérience. En haut de la tour d'une abbaye, l'équipe teste aujourd'hui un nouvel appareil, la boîte à chute. Les boules lâchées, désormais avec un synchronisme parfait, produisent un résultat identique au précédent. Elles arrivent en même temps au pied du guido, arbitre incontestable de cette expérience.
Et voilà.
Galilée estime qu'il faudrait faire l'expérience dans le vide pour qu'elle soit juste. Mais où trouver du vide? Alors il extrapole pour le vide à partir de ce qu'il constate dans l'air. Deux objets, quelle que soit leur masse, tombent à la même vitesse dans le vide.
Bien. Il n'a pas de vide. Effectivement, cette notion de vide viendra qu'après sa mort par un de ses élèves, un de ses laborantins aussi. Torricelli, je perds le nom. À ce moment-là, il n'est pas question de faire du vide, on n'a pas les moyens. Mais aujourd'hui, on les a eu, ces moyens. Et il y a donc une expérience, il faut peut-être que je mette la bonne. Je ne suis pas sûr que c'est celle-là. Non, c'est celle-là, voilà, oui, c'est ça. Et je vous la passe. Plume et marteau, si vous ne voyez pas. Donc les astronomes américain sur la Lune, je crois que c'est en 71, en 1971. Donc on refait une expérience dans la suite de Galilée, et ça a marché avec plume. Vous savez que quand il y a de l'air, la plume va flotter, ou comme les feuilles des arbres qui descendent très lentement. Eh bien, dans le vide, ce n'est pas le cas, et ils ont montré qu'un marteau et une plume, c'est une plume, oui, tombaient donc à la même, arrivaient en même temps sur le sol de la Lune. Alors, on va essayer de retrouver où j'en étais resté, là. Alors, finalement, ça c'est dans le musée de Florence que se trouve cette installation. Finalement, non, c'est le problème de la globalité des lois physiques qui est posé ici. Et Galilée le sait bien parce que c'est pas à son époque qu'on a commencé à lui dire, c'est à l'époque des Grecs, c'est dans l'Antiquité, à l'époque d'Archimède, à l'époque d'Aristote, on leur dit, mais c'est bien beau votre histoire de Terre qui tourne. On sait qu'elle est ronde, mais elle tourne. Si vous lancez quelque chose dans l'air, eh bien, elle devrait retomber derrière. Or, elle retombe au même endroit si on le lance droit. Alors Galilée, ben, ça lui pose des problèmes et il faut qu'il essaie de résoudre ce problème. Alors il va essayer de résoudre ce problème. Marilène, tu peux lire un texte qui va être finalement... je laisse le texte. Ah, tu veux la lumière. Micro.
Ça fait rien, on s'agrippe.
Oui.
C'est à Galilée qu'on doit la première expression de relativité. Vous m'entendez? Enfermez-vous avec un ami dans la cabine principale à l'intérieur d'un grand bateau et prenez avec vous des mouches, des papillons et d'autres petits animaux volants. Prenez une grande cuve d'eau avec un poisson dedans. Suspendez une bouteille qui se vide goutte à goutte dans un grand récipient en dessous d'elle. Avec le bateau à l'arrêt, observez soigneusement comment les petits animaux volent à des vitesses égales vers tous les côtés de la cabine. Le poisson nage indifféremment dans toutes les directions. Les gouttes tombent dans le récipient en dessous et si vous lancez quelque chose à votre ami, vous n'avez pas besoin de le lancer plus fort dans une direction que dans une autre. Les distances étant égales, et si vous sautez à pieds joints, vous franchissez des distances égales dans toutes les directions. Lorsque vous aurez observé toutes ces choses soigneusement, bien qu'il n'y ait aucun doute que lorsque le bateau est à l'arrêt, les choses doivent se passer ainsi, faites avancer le bateau à l'allure qui vous plaira, pour autant que la vitesse soit uniforme, c'est-à-dire constante, et ne fluctue pas de part et d'autre. Vous ne verrez pas le moindre changement dans aucun des effets mentionnés, et même aucun d'eux ne vous permettra de dire si le bateau est en mouvement ou à l'arrêt. Galilée, dialogue concernant les deux plus grands systèmes du monde, 1632.
Alors, ce texte de Galilée, bon, c'est dans le bouquin qui lui posera le plus d'ennuis. C'est le dialogue des deux systèmes du monde pour lequel, à partir de là, disons qu'il aura des gros ennuis avec l'Église, qu'il sera condamné. Néanmoins, on voit bien arriver cette notion de relativité là-dedans, et certaines personnes, des physiciens épistémologiques de la physique, etc., comme Françoise Balibar, par exemple, a travaillé là-dessus et fait remonter finalement cette idée de relativité à Galilée. Alors, on va essayer d'un peu voir, je ne veux pas passer trop de temps parce que je vois que je dérive, mais c'est bien l'idée qu'il n'y a rien dans ce navire qui permet de repérer si tout est fermé finalement. Mais cette expérience, nous à notre époque, on la connaît dans les avions. Quand on est dans un avion, au démarrage, bien sûr, ça pose des problèmes. Mais quand on est en haut, quand il n'y a pas de trou d'air, etc., on voit bien que si on laisse tomber une pièce dans l'avion, elle va tomber tout droit. Il n'y a aucun problème là-dessus, on boit un café très tranquillement. À partir du moment où il y a un trou d'air, effectivement, c'est un tout autre problème. Donc voilà, je vais sauter une petite partie parce que je sens que je vais prendre trop de retard. Toutes les sources que je donne, je les mettrai sur le site. Hein. Donc, il n'y a pas de problème, vous pourrez retrouver. Et en particulier, le petit film qu'on a vu tout à l'heure, j'ai mis deux morceaux, mais c'est un bon film qui était passé sur la 5 il y a quelques années et qui dure une heure. Donc, j'ai pris seulement deux séquences. Je passe. Alors, je passe. Je ne monte pas la partie sur la relativité. Je l'expliquerai dans le... Alors, nous passons... quelques années plus tard, c'est l'affaire de la lunette de Galilée. J'ai trouvé une gravure d'une échoppe d'opticien, c'est en 1582. Et c'est assez intéressant cette scène parce que, à part les petits, tous les autres ont des lunettes. Hein? Et là, on a un opticien, vous voyez, l'enseigne, des lunettes en haut, tous les gens âgés ont des lunettes. Dans un voyage de la Corfu en Toscane, je crois, on avait vu que, c'était à Bologne, je ne me souviens plus où, mais dans un monastère, dans une salle, il y avait des représentations, et il y avait un moine vers 1300 qui avait des lunettes. À Trévise ? Je ne me souvenais plus où. Alors, ce n'était pas du tout en Toscane. Alors, les lentilles, je passe à la lunette de Galilée. Les lentilles, ça existe depuis le XIIIe siècle en Europe, c'est ce qu'on vient de voir. C'était des loupes de grossissement. À partir de là, on peut rapidement faire des lunettes pour les presbytes, donc pour les gens à partir d'un certain âge dont le journal recule pour qu'on arrive à le lire. Mais il faudra attendre il faudra attendre 1450 à peu près pour qu'on traite les myopes. Cette fois-ci, il faut des lentilles concaves, creuses. Alors, je quitte cette chouette de gravure. Et il y a Hans Lippershey, qui est un opticien hollandais, qui essaie en 1608 d'avoir un brevet pour une lunette. C'est pas celle-ci exactement, mais c'est un peu l'idée. On va un peu la voir mieux avec Galilée. Donc, une lunette qui rapproche les objets. Galilée voit passer cet objet et ça l'intéresse. C'était vendu sur les marchés, c'était plus un gadget qu'autre chose. Et lui, il se dit, mais c'est pas un mauvais système. Et il est à Venise. À Venise, on sait travailler le verre, il y a Murano à côté, etc. Et il a son ouvrier qui sait faire beaucoup de choses. Eh bien, il va se mettre à travailler les deux lentilles, une concave au niveau de l'oculaire, c'est où on regarde, et l'objectif à l'autre bout de la lunette sera convexe. C'est des tubes, c'est deux demi-tubes finalement. On voit deux des lunettes de Galilée ici, reconstituées. Enfin. Et il y a des bacs qui maintiennent les deux demi-cylindres l'un contre l'autre. Et il y a deux lentilles, une par là et une par là. Alors il reste une des lentilles de Galilée. Vous voyez, elle est grossie là, les couleurs sont pas les mêmes, mais c'est quand même la même. Elle est cassée à un endroit. Elle faisait 30 mm de diamètre. Et c'est assez intéressant de voir cela. Alors, il va construire des lunettes, alors que le Hollandais arrivait à un facteur 3. Lui, il arrivera à des facteurs 12, 20, jusqu'à 30. Donc, il arrivera vraiment à améliorer. Sachez que, en gros, une paire de jumelles moyenne, c'est un facteur 7, le grossissement de jumelles. Il y en a des tas de sortes, hein, mais je veux dire, c'est 7, la jumelle normale qu'on rencontre sur Terre. Et quand il a fabriqué cette lunette, eh bien, il va la diriger vers le ciel, et Marilène va nous lire un second texte. Ça vient d'un livre sur l'histoire de l'astronomie, et c'est une des bonnes références, si vous voulez un peu analyser tout cela, il est intéressant, il est de Jean-Pierre Verlet.
Verdet. Une histoire de l'astronomie. Les cieux s'approchent. Le 21 août 1609, répondant à l'invite de Galilée qui vient d'achever sa première lunette, tous les membres du Sénat de Venise escaladent le campanile Saint-Marc et scrutent la lagune. Les voiliers qui s'approchent et que les sénateurs distinguent dans ce tube optique, que l'on pouvait aussi bien à l'époque qualifier de magique, il leur faudra attendre 2 heures et plus pour les voir à l'œil nu. Dès le 26 août, il sait qu'il sera récompensé et croit comprendre que ses émoluments vont passer instantanément de 520 à 1000 florins par an. Lorsque l'arrêté officiel arrive, Galilée découvre que le gouvernement est moins généreux qu'il ne l'avait cru. Certes, la chaire de mathématiques qu'il occupe à Padoue et qui dépend de la République de Venise lui est désormais acquise à vie, mais l'augmentation, dont il est bien précisé qu'elle ne sera suivie d'aucune autre, n'interviendra qu'à l'expiration du contrat en cours un an plus tard. Dans les 3 mois qui suivent, les déplacements de Galilée entre Padoue, Venise et Florence sont mal connus, ainsi que ses activités. En tout cas, fin novembre, il a terminé une nouvelle lunette de puissance 20, alors que celle présentée au Doge n'avait qu'une puissance 8. C'est avec cette lunette que le 30 novembre 1609, peu après le coucher du soleil, Galilée observe et dessine la lune vieille de 4 jours. Il continue de l'observer jusqu'à ce qu'elle se couche. Il en exécute un second dessin et il suit, première découverte télescopique, la progression du lever du soleil sur la région de Janssen Fabricius. Le 2 décembre, il observe les sommets déchiquetés des monts qui bordent la mer de la Sérénité. Et le 3, il note que le terminateur coupe le cratère Albatenius. Le 4, il écrit à Michelangelo Buonarroti, le neveu du grand Michel-Ange, qu'il viendra à Florence l'été suivant avec une lunette perfectionnée et peut-être quelque autre invenzione, sans que l'on puisse savoir s'il annonce une invention ou une découverte. Puis il faut attendre les 17 et 18 décembre pour qu'il note 2 nouvelles observations du cratère Albatenius et du pourtour de la mer de la Sérénité. Retouche-t-il alors sa lunette de puissance 20 ? Toujours est-il que, du 19 décembre au 6 janvier, il semble n'utiliser que celle de puissance 8 pour observer les étoiles, la Voie lactée et Jupiter. Les observations télescopiques d'étoiles ajoutent au petit nombre de celles visibles à l'œil nu. Ainsi, dans le voisinage du Baudrier et de l'épée d'Orion, visible l'hiver, Galilée découvre 90 étoiles jamais vues et 36 autres autour des 7 filles d'Atlas, les Pléiades. Sous la puissance de sa lunette, la Voie lactée se résout en une masse d'étoiles innombrables assemblées par grappes, alors qu'elle était tenue généralement pour une exhalaison de l'atmosphère terrestre. Mais le plus important restait à venir, l'observation des satellites de Jupiter. L'annonce de cette découverte clora le Sidereus Nuncius, c'est-à-dire le messager des étoiles. Le 7 janvier 1610, Galilée reprend sa lunette de puissance 20, sans doute perfectionnée. Il observe Jupiter et note pour la première fois qu'il est accompagné de 3 étoiles. Le 8 janvier, il remarque que ces étoiles suivent Jupiter dans sa marche. Le 9, le ciel se couvre et Galilée ne peut pas observer. Le 10, il retrouve Jupiter et ses 3 lunes et en commente des observations systématiques. Le 13, il découvre la 4e lune de Jupiter. Les 4 compagnes de la planète semblent tourner autour d'elle tout en l'accompagnant dans sa course céleste. Le 16 janvier, Galilée commence la rédaction du Sidereus Nuncius, donc c'est le fameux messager des étoiles, et continue d'observer juste puisqu'il intégrera dans cet ouvrage des observations jusqu'au 2 mars. Le jour précédent, il avait obtenu l'autorisation de publier. Le 12 mars, le livre était achevé et le 19, Galilée en envoyait un exemplaire à Côme II de Médicis.
Bien. Donc ce sont des bombes dans le système précédent qui sont expédiées sur la Lune, qui devait être un astre parfait, comme les autres d'ailleurs. On va le voir un peu maintenant. Il y a des montagnes, il leur donne donc la taille de jusqu'à 7000 mètres de haut. On voit que sur Jupiter, il y a des satellites, c'est lui qui invente le mot d'ailleurs. Et ce qui est important, c'est que finalement, Jupiter, ça sera un petit soleil avec ses satellites, des choses qui tournent autour. Donc, c'est possible. Jusqu'à maintenant, on pensait que ce ne l'était pas. On a vu la Voie lactée. Donc là, jusqu'à maintenant, il y avait 5000 étoiles recensées, ce qu'on pouvait voir à l'œil nu. Il démultiplie tout ça. Donc, tout est en train d'être chamboulé. Donc, il va, à ce moment-là, sans doute faire une erreur, mais il faut savoir, il avait donné au nom des lunes de Jupiter le nom de satellite médicien, de Médicis. Donc il leur donnait un nom vis-à-vis des souverains de Florence. Et donc ça flatte, il est originaire de là-bas, il décide de repartir là-bas, cette ville lui plaît, elle lui manque, et il part avec un contrat qui est très amélioré par rapport à ce qu'il avait à Venise ou à Padoue. Et cette fois-ci, il n'a plus à donner de cours et il va pouvoir être un chercheur à temps complet. Il devient l'astronome du souverain, du grand-duc de Toscane. Alors, il est temps de faire le point sur l'évolution de l'astronomie, de ce qu'était le système solaire pensé, disons, à l'époque antique. Alors, dans l'Antiquité, les Grecs ont trouvé tout ce qui est observable. Autour de la Terre, au centre, ils placent le Soleil et la Lune, et ils placent Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. 7 astres. Ensuite, plus haut, il y a la sphère des étoiles. Alors, c'est un peu ce qu'on voit sur cette représentation qui doit être du 15e, je n'ai pas un souvenir. C'est à peu près ce qu'on pense à l'époque d'Aristote. Donc, la Terre ici, Mercure est là, la Lune est là, Vénus, le Soleil, le plus jaune, il y a généralement des dessins, puis Mars, Jupiter et Saturne, et autour les étoiles avec le zodiaque, donc qui figure les étoiles. Et à l'extérieur, il n'y a rien, c'est fini, le monde est clos. Dans l'Antiquité, ils avaient compris que la Terre était ronde. Au début, ils croyaient qu'elle était plane et qu'elle flottait. Ils garderont cette idée d'ailleurs comme raison pour laquelle la glace ne coule pas. Et Galilée montrera que si on met ce pain de glace qui ne coule pas au fond, il remonte, donc cette explication ne tient pas. Ils savent que la Terre est ronde au 5e siècle, en tout cas à l'époque classique, ils le savent, Platon le sait, etc. Et ils arrivent même un peu plus tard à mesurer la circonférence de la Terre. C'est Ératosthène qui est dans le petit angle qu'il fera. Ératosthène est à la bibliothèque et au musée d'Alexandrie, c'est l'endroit où se déroule finalement Euclide, a été quasiment le fondateur, et d'autres personnes l'ont dirigé, dont Ératosthène, Ptolémée en sera aussi plus tard, 5 siècles après. C'est l'endroit où vraiment il y a la recherche mathématique et astrologique fondamentale pour cette époque. Je reviendrai dessus, mais sans effet sur le monde de la technique. Alors, Ératosthène, il le fait avec une grande économie de moyens, sa mesure de la planète, de la circonférence de la planète. Il est à Alexandrie. Ici, il y a Sienne. Sienne, aujourd'hui, c'est à Soin. C'est très au sud, c'est sur le même méridien. Et il sait, à un moment, qu'au moment du solstice d'été, eh bien, le soleil fait qu'on peut voir au fond, on voit au fond d'un puits, il n'y a pas d'ombre sur un obélisque ou sur un gnomon, un bout de bois planté dans le sol. Mais à Alexandrie, il y en a. À partir de là, ça veut bien dire qu'il y a un angle. Ça veut donc dire qu'il y a bien un arrondi sur la planète. On le savait pour d'autres raisons. On le savait parce qu'un bateau qui s'en va, eh bien, on voit la coque disparaître, puis le mât. Il n'y a pas de doute que tout disparaît. C'est pas parce qu'on ne le voit plus, c'est parce que c'est arrondi. Il y avait d'autres éléments que j'ai connotés, j'ai plus trop en tête. Bon, non, ça ne me revient pas. Bon, passons, continuons. Et donc, cet arrondi, ils peuvent le mesurer. Bon, là, il mesure qu'il y a un angle de 7,2 degrés, à peu près 800 km entre Alexandrie et Assouan. Il y avait une brigade de personnes, d'arpenteurs chargés de mesurer en Égypte. C'est assez curieux, j'ai appris ça en lisant tout ça. Et à partir de là, avec des lois de proportion simples, les règles de Troie de notre époque, on arrive à trouver autour de 40 000 km comme circonférence de la Terre. C'est pas loin du tout de ce qu'on trouve aujourd'hui. Alors, après arrive, j'ai déjà donné son nom, Ptolémée, Claude Ptolémée. On parle d'Aristote, de système aristotélicien, mais en fait, pour l'astronomie, c'est bien Ptolémée qui a repris et amélioré suffisamment le système pour que tous ces errements que font les planètes que l'on voit, qui ne correspondent pas vraiment à des cercles, eh bien, avec son système, ça marche à peu près. Ça ne marchera pas complètement, c'est bien sûr que c'est pour ça que ça, on le remettra en cause. Mais néanmoins, il fait une très grande amélioration. Et tout ça, c'est dans un de ses livres. Il est géographe, il est astrologue, et il écrit aussi un livre sur le problème du système solaire, finalement. Voici une image de la traduction latine. C'est passé par les Arabes. Le nom Al-Majest veut dire la grande composition. Donc, c'est les Arabes qui ont repris tout ce système. Et on a pu le retraduire en latin, comme beaucoup de manuscrits, vers 1450, sans doute un peu avant, parce que ça, c'est l'édition du manuscrit qui est mentionnée là. Alors, Ptolémée. Alors, on arrive devant le problème. Je reste là-dessus pour l'instant. Alors, les bases du géocentrisme, d'abord, qu'est-ce que c'est ? C'est que la Terre est au centre du monde et immobile. Autour, il y a ce qu'on appelle les luminaires. Les luminaires, c'est la Lune et le Soleil. C'est les choses qui éclairent. Le Soleil éclaire beaucoup, la Lune, il pense qu'elle éclaire aussi. Il y a des reflets. Mais les autres aussi. Les cinq planètes visibles à l'œil nu, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, et plus loin, placées sur une sphère, environ 5000 étoiles. Elles sont toutes à la même distance de la Terre, les étoiles. Et la Terre est bien sûr le centre unique de tous les mouvements célestes. Alors, je vais peut-être revenir d'ailleurs sur... Non, un petit peu à l'avant. Oui. Le monde terrestre, c'est ce qui va avant la Lune. Ses caractéristiques, c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est le monde du changement. C'est le monde du périssable. C'est le monde de la génération. Il y a du nouveau. Et de la corruption. C'est le monde... des mouvements rectilignes, il y a des choses qui vont vers le haut, il y en a qui vont naturellement vers le bas, pour Aristote. Eh bien, les légers vont vers le haut, c'est l'air et le feu, et les graves, les lourds, les pesants, on dit les graves, alors l'unité, le gramme, le kilogramme plutôt, avait été donné, on avait donné le nom de grave à la Révolution. Et puis après, on a abandonné ce terme, qui est partout dans la littérature, jusqu'à Galilée, même un peu après. Alors, ces graves, eux, c'est la terre et l'eau. Plus loin, le monde du cinquième élément, à partir de la Lune et après, la perfection, ça va être l'éther, qu'on va l'appeler, ou la quintessence. C'est le monde de la non-physique, les lois de la physique ne s'appliquent pas, c'est le monde de la pureté permanente. Ça signifie que pendant près de 20 siècles, les astronomes ne verront ni les taches solaires, ni les étoiles nouvelles. Et enfin, le mouvement, c'est celui qui est un mouvement circulaire uniforme, un cercle donc, ou une sphère. Et là arrivent les limites, parce que ce mouvement circulaire uniforme, ce n'est pas exactement ce qu'on voit lorsqu'on regarde bouger les planètes. Celles qui sont plus loin que la Terre, disons, vont avoir des retours sur eux-mêmes. En voici un, la rétrogradation, cherchez le nom. Et celles qui sont vers le Soleil vont avoir des mouvements plus diffus. Voilà les idées. Alors, on trouve aussi, on regarde des problèmes, c'est la variation importante de la luminosité des planètes. Les vitesses aussi varient. Et il y a les éclipses solaires qui intéressent bien sûr tout ce petit monde. Elles sont parfois totales, parfois annulaires, parfois partielles. Et elle suppose bien sûr des variations de la position de la Lune et du Soleil par rapport à la Terre. Alors pour expliquer tout ça, alors là, j'ai pris des photos récentes de la NASA hein, et j'ai ajouté ce petit système qui nous montre une explication. J'ai un deuxième tableau derrière, c'est pas un tableau en fait, un deuxième graphique derrière qui montrera un peu plus tout ça. Alors là en fait c'est la Terre qui tourne, là la partie un peu bleutée, hein, vous voyez l'arrondi, ça tourne, et au-dessus une deuxième planète. Alors l'idée, c'est que quand on regarde, là, il manque le haut de mon système, et là, ben, je ne peux pas trop le descendre. Alors je passe au second. Enfin, vous pouvez déjà voir une chose, c'est que sur le deuxième, on va voir la même chose, mais on verra la courbe. Ici, c'est la Terre, ici, c'est Mars, et donc, on a la projection qui va être plus haut, et la Terre va passer en dessous de Mars, et va le dépasser, vous voyez, le cercle de Mars, ça c'est des temps égaux, hein. On a le même temps pour aller de là à là, etc. Et même chose en bas. Eh bien, là, Terre qui est en dessous dépasse Mars, et à partir de là, eh bien, il y a un problème, et le problème, le voici. Alors, c'est exactement la même idée, c'est beaucoup moins joli, peut-être plus efficace. Donc voilà les temps qui sont donnés, et c'est le même temps qu'on tombe sur Mars. Vous comprenez le mécanisme à peu près, hein? Et donc quand on regarde, eh bien, on voit que la courbe va avancer, et puis il y a la rétrogradation, et ça repart. Eh bien ça, à l'expliquer avec un cercle, c'est extrêmement compliqué, et il va falloir donc trouver des solutions. Ils vont en trouver plusieurs. D'abord, on va créer la théorie de l'excentrique. C'est très vieux, ça c'est à l'époque classique. C'est-à-dire que la Terre est au centre du monde, mais elle n'est pas au centre du cercle de la, que poursuit la planète. Il est excentré, ce cercle. C'est intéressant parce que ça explique les saisons. Ça explique des choses comme ça, des variations. Même chose ici, on l'a déplacé autrement. On voit bien qu'il y a beaucoup plus de place par là que par là. Effectivement, ça commence à expliquer certaines choses. Et puis, on va trouver alors un truc. Il y a une faute dans le texte. Là, j'ai fait des copies d'écran. C'est épicycle, hein, c'est écrit là-haut. Alors, cette fois-ci, un épicycle est un petit cercle sur lequel tourne la planète et dont le centre, ici, tourne sur le déférent qui tourne autour de la Terre. Ça va permettre de donner comme des loopings. Vous voyez, on va pouvoir faire plein de choses avec. Vous voyez la course que va avoir cette planète en suivant, en gros, le référent et les épicycles à certains moments. Et en bas, on va pouvoir créer des mouvements elliptiques, ce qui vont bien servir pour certaines courses du Soleil, par exemple. Alors, ça marche un peu, ça marche pas mal, mais c'est pas suffisant encore. Alors, il va falloir inventer, alors là, un truc encore pire, c'est les coins. J'ai pas tout compris, j'avoue. Et donc, la Terre est là, le centre du cercle de déférent est là, et en plus, on crée un point symétrique par rapport au centre du déférent pour le centre de la Terre, et qui va permettre à ce que ces épicycles tourne avec des angles qui se reproduisent à chaque fois. Ça va donner plus de régularité. Alors, le fond du problème, c'est que ça suffit encore pas. Et il y a une phrase admirable de Ptolémée par rapport à tous ces problèmes de complications dans l'Almageste, livre 12, deuxième partie. Il dit « Il faut, autant qu'on le peut, adopter les hypothèses les plus simples au mouvement céleste. » Et il ajoute: mais si elles ne suffisent pas, il faut en choisir d'autres qui les expliquent mieux. Donc avec tout ça, on devrait pouvoir y arriver. Un gros millénaire plus tard, l'Église va... Alors, bien sûr, avec la fin de l'Empire romain, il va y avoir un gros recul de toute la connaissance. Une grande partie de la population reviendra au fait que la Terre est plate. Hein. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est quand même connu, etc. Et au Moyen-Âge, on récupère des manuscrits arabes, etc. Bacon travaille un peu là-dessus. Il y a pas mal de gens bon, qui ont bien compris le mécanisme, la Terre est ronde. Donc c'est là-dessus qu'on va travailler. Là, j'ai trouvé, curieusement, j'avais vu des planches des chroniques de Nuremberg de Schebel, c'est l'imprimeur, et je suis tombé dans la Gazette de Drouot en mettant ses noms, et il venait d'en vendre un, donc à 50 000 euros, c'est pas une somme facile à trouver. Et donc ce livre est... Dessus, il y a cette planche, et les éléments qu'on trouve, c'est la planche de la sanctification du septième jour. Alors, je vais avancer un peu, je vais centrer uniquement sur la partie système solaire, et après on regardera un peu plus Dieu qui est là et qui se repose après la création du monde. Nous sommes dimanche. Alors, le système de Ptolémée, revu et corrigé par les pères de l'Église à l'époque médiévale. Au centre, la Terre. C'est bizarre, cette partie. On dirait que c'est un paysage à l'envers, mais enfin. Enfin, ils écrivent dessus, donc ça va me servir, croyez-moi. Donc, la Terre est là, au centre. Autour, on va trouver d'abord la sphéra aquée. C'est la sphère de l'eau qui se trouve là. La zone d'eau et d'humidité qui va servir à protéger la Terre des suivantes. Après, il y a l'air, et puis il y a l'ignus, vous voyez les petites flammes qu'on voit tout autour, heureusement que l'eau est là pour nous protéger. Et bien, si on regarde finalement ces quatre éléments, on a bien ici la terre, l'eau, l'air et le feu. Tout est fait avec ces quatre éléments. Hein? Donc on a beaucoup d'éléments symboliques là-dedans. Après, on va trouver la lune. La lune, elle est là, on voit son quartier. Après, on a une étoile. C'est Mercure. Vénus, je ne me suis pas trompé, je suis de biais. Oui, elle est là-bas, l'étoile. Et après, on voit le soleil resplendir. Il tourne bien autour. Hein? Solaris, j'ai plus son nom, je vois mal. Solis, il est là. Après, on va trouver Mars, Jupiter, Jove et Saturne. Donc, on a toujours nos sept planètes. C'est intéressant, 7. 7, c'est 3 plus 4, au cas où vous ne le sauriez pas. 3, c'est Dieu, la Trinité. Et 4, les 4 éléments de la Terre. Donc, ça tombe là-dessus. Ils n'ont pas du tout envie de voir arriver d'autres choses là-dedans. Ça fout tout en l'air. Les satellites de Jupiter, d'abord, on ne les voit pas déjà, nous. Donc, il n'y a aucune raison, c'est qu'ils n'existent pas. Ils n'existent que dans la lunette, diront-ils. Et autour, eh bien, on a ce qu'ils vont appeler le firmament, une bande contenant les 12 signes du zodiaque. En fait, les étoiles sont là. On considère aussi que c'est la base du trône de Dieu. On ne le voit pas, mais il est là. Vous l'avez vu tout à l'heure. Après, on a encore quelque chose, le coleum cristallinum. C'est une enveloppe, c'est le ciel cristallin. C'est une enveloppe de cristal, le plafond du firmament, parfois. On va trouver plusieurs éléments. Il est même des fois mélangé, disons, avec le prochain, qui est le primium mobile. C'est la force, le moteur de l'univers. C'est ce qui le fait tourner. Alors, on va aller voir un peu plus haut, puisque le Créateur est là, il se repose, il est entouré du monde céleste, de gens qui ont l'air assez joyeux. J'ai perdu un bout de ma page. À gauche, on a la liste de la hiérarchie du ciel. On a les séraphins, les chérubins, les trônes, etc. Tout en bas, les anges. C'est presque les travailleurs du coin. Aux quatre coins, on a les vents qui se trouvent, je les cite, Subsolanus le vent d'est, Austère le vent du sud, Apartias ici le vent du nord et Zéphyr le vent d'ouest, celui qu'on a le plus souvent. Apparemment, ici, les artistes ont donc combiné les idées de Ptolémée avec celles des pères de l'Église. Nous avons donc bien la terre immobile au centre, avec les trois autres éléments, c'est le monde élémentaire, et ils sont enveloppés par les planètes, plus le firmament. Ici, une petite surprise, j'ai aussi trouvé ça en cherchant sur Internet. Il y a d'autres méthodes, enfin, en voilà une, en tout cas, pour faire tourner l'ensemble. La terre est là, et il y a deux anges à manivelle qui entraînent le tout. J'espère qu'on les changeait assez souvent quand même. C'est une exposition de 98-99 à la BN. J'ai repris ce qu'il y avait à côté. J'étais assez sidéré de tomber là-dessus. Voilà donc pour notre système. Ah, c'est par là que j'en suis, j'ai perdu une page. Voilà, elle est là. Voilà. Alors, on arrive donc à ce problème. Alors, j'ai la Terre et Hélios le Soleil, donc centré sur la Terre ou centré sur le Soleil. On a bien ces deux systèmes. L'Église s'accroche au géocentrisme, ils n'ont pas envie de tout casser. On a bien vu qu'il y avait toute cette histoire d'hierarchie aussi. Alors, si on commence à tout déplacer, elle est dans une période complexe, l'Église. Hein, je veux dire, on est dans la période de la contre-réforme. Tout a bougé en Europe. La moitié, pratiquement, du nord de l'Europe a quitté le catholicisme. Donc, ce n'est pas la période où ils vont être les plus coulants. En face, il y a l'héliocentrisme. Et l'héliocentrisme, il va arriver avec un moine polonais qui est Copernic. Alors, toujours une surprise, bien sûr, c'est un homme d'Église, comme beaucoup de savants de l'époque. Hein, pour étudier, de toute façon, ce n'était pas si simple. C'était mieux d'être homme d'Église. Et c'est un mathématicien, c'est un chanoine, mathématicien et astronome. Ce système, je le montre là. Alors, Il est assez peu lisible, mon dessin, mais bon, on voit bien que le soleil est au milieu. On voit bien que la Terre est représentée quatre fois pour montrer les différents éclairages par le soleil. Et autour, on a les différentes planètes. Et enfin, autour, se retrouvent à nouveau les étoiles. C'est un système figuré à peu près de la même manière. Alors, il écrit son... J'ai perdu le nom de son bouquin, mais enfin, il écrit vers 1530 de Revolutionibus, si je me souviens bien. Bon,
sujet des révolutions.
Ouais, vous ne devez pas m'entendre, je n'ai pas rapproché le micro. Au fond, ça va ?
Oui.
Alors, il écrit son bouquin vers 1530, mais il préfère ne pas le publier. Il le montre à certains, on en parle, et il le publiera que l'année de sa mort. Et dedans, il écrit « Comment Dieu aurait-il placé ce luminaire extraordinaire qui est la source d'énergie ailleurs qu'au centre de l'univers ?» Il expose les raisons avec beaucoup de prudence. Le seul avantage qu'il y a à considérer le soleil comme immobile et la Terre comme tournant sur elle-même et autour de lui, c'est que les mouvements célestes qui nous paraissent si bizarres deviennent tout à coup d'une étonnante simplicité. C'est pas vraiment vrai, mais bon, c'est vrai que c'est sans doute plus simple que le système de Ptolémée. Il reste à les expliquer, et pour l'instant, il reste quand même à l'idée que c'est un mouvement circulaire uniforme, celui des sept éléments, et ça, c'est pas simple. Ah oui, j'ai oublié de parler, la Lune, bien sûr, se retrouve autour de la Terre, je la vois peu d'ici. Oui, elle est par là, à plusieurs endroits. Elle tourne autour de la Terre, en tout cas, il la met forcément là. Alors, on la voit pas tellement. Hein. Non, j'ose pas trop voir. Mais bon, elle l'est forcément, elle ne va pas apparaître pour le reste. Il n'y a aucun doute là-dessus. Alors, maintenant, il va falloir arrêter aussi l'histoire du mouvement circulaire continu. Et c'est un duo, Tycho Brahe et Kepler, qui vont essayer de travailler là-dessus. Alors, Tycho Brahe est un Danois, prince, c'est le plus haut niveau de la hiérarchie du royaume de Danemark, et il va devenir, alors il est là, il est au milieu de ses instruments, c'est un homme qui avait construit Uraniborg, c'est une, il l'appelait comme ça, sur l'île de Van, au Danemark, et il avait construit donc un observatoire avec beaucoup d'instruments, sans optique, on ne grossit pas, mais il y a énormément d'instruments qui permettent de repérer, et il a fait des relevés complètement incroyable. Les relevés, ils les ont depuis les Grecs aussi, ils les ont récupérés. Donc on a quand même une base de travail extraordinaire. Tycho Brahe, lui, il n'a pas envie de mettre la Terre, le Soleil au centre de tout ça. Alors, il va trouver un moyen terme, le géo-héliocentrisme. Alors vous voyez, la Terre a la Lune qui tourne autour, ça, il n'a aucun doute là-dessus. Mais les planètes tournent autour du Soleil. Donc voilà le système que donne Tycho. C'est pas clair, mais au moins, il n'a pas d'ennui. Il aura des ennuis de toute façon avec son roi, parce que, bon, pour d'autres raisons, il est un peu spécial. Je rentre pas dans les détails non plus, parce que le temps avance. Et il va être forcé de partir. Il sera à Prague, où il viendra avec ses instruments, et il mènera les mêmes recherches. Et un jeune Allemand, Kepler, arrivera, très grand mathématicien, il y a une grande curiosité avec Kepler, c'est qu'il est affreusement myope, ce qui est quand même embêtant pour un astronome. Je vous conseille d'aller voir, il y a un film qui est sorti il y a 15 jours, L'œil de l'astronome, c'est sur Kepler, les 10 jours où il a récupéré une lunette de Galilée pour regarder dans le ciel. Mais il fait regarder par d'autres, en fait, hein, qui font des dessins, etc. Il ne voit pas grand-chose, le pauvre Kepler. Et allez voir ce film, c'est un film qui est malheureusement sorti dans seulement 5, c'est un documentaire, disons, dans 5 salles en France, et je crois qu'il n'y en a plus que 2 maintenant. On a été le voir à Paris donc la semaine dernière. Il est tout à fait étonnant. Bon, alors, l'avantage de Kepler, c'est que quand Tycho meurt, il récupère, il pique un peu même, hein, toutes les valeurs qu'avait tous les relevés de Tycho. Et à partir de là, il croyait qu'il irait vite, mais il a mis beaucoup de temps, il a réussi à reconstituer l'orbite de Mars. Et il s'aperçoit que c'est une ellipse, ce n'est pas un cercle. Alors à nouveau, il y a une opposition frontale au géocentrisme. Une ellipse dont l'un des foyers est le Soleil. statues de Tycho Brahe et de Kepler, elle est à Prague. Je ne sais plus ce qu'il y a après. Alors, on arrive au moment finalement assez crucial, puisqu'on a vu que ce ne sont pas des cercles, les trajectoires des planètes, la Lune n'est pas parfaite, donc encore quelque chose qui tombe, beaucoup plus de 5000 étoiles, les quatre lunes de Jupiter, j'ai pas encore parlé, mais il y a aussi les phases de Vénus. Je crois que c'est en 1612, Galilée observe avec une lunette, les phases de Vénus, s'aperçoit effectivement incontestablement que on le voit décroissant des demi-zones éclairées de Vénus, elles tournent incontestablement autour du Soleil. Alors, le système géocentrique est moribond, ce n'est pas Galilée qui lui portera le coup de grâce, bon, c'est plus tard, c'est Newton, qui naît début de l'année d'après, exactement, en 1643, alors que Galilée est mort en début 42. Il portera le coup de grâce avec la loi de la gravitation universelle, sur laquelle s'appuie, disons, toute la mécanique céleste. Il va falloir parler un peu du procès, très peu, c'est pas mon sujet. J'en dis quelques éléments, les grands points, disons. Hein. Il y a une conférence ici du mari de Lina, il y a quelques années, à laquelle j'ai pas assisté, sur le procès par lui-même. Alors, le contexte religieux, je l'ai dit, c'est celui de l'Église de la contre-réforme qui lutte contre l'hérésie. C'est son combat. On l'a vu, le 17 février 1600, sur le Campo dei Fiori, à Rome, sera brûlé Giordano Bruno. Giordano Bruno, il croyait à un univers infini, peuplé de milliers de soleils, entouré de planètes. C'était pas vraiment des idées à donner. Bon, c'était un rebelle de toute façon, beaucoup plus virulent que l'était Galilée, il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'a cédé en rien. 10 ans plus tard, Galilée met à bas l'édifice aristotélicien et la philosophie naturelle avec le messager des étoiles. Marie-Hélène en a lu un morceau. Et le travail de Sape est encore poursuivi par un autre livre, le discours sur les choses qui flottent sur l'eau. Je n'entre pas dans les détails, ce n'est pas le sujet, je l'ai dit. En 1616, l'Église met à l'index le livre de Copernic. Cette fois-ci, j'ai écrit le nom. De revolutionibus orbis colestio. Je suis pas très bon en latin, j'en ai jamais fait. C'est ma femme, le rayon latin. Des révolutions des sphères célestes. Le pape convoque Galilée à Rome, lui demande de ne pas diffuser les thèses du chanoine polonais, ce qu'il va faire pendant 7 ans, mais en 23, il commence il arrive une bonne nouvelle pour Galilée d'abord. Son ami le cardinal Barberini est élu pape sous le nom d'Urbain VIII. Et, discussion, etc., je passe là-dessus, mais il autorise Galilée à publier un ouvrage parlant des deux systèmes astronomiques, celui d'Aristote et celui de Copernic. Mais il pose deux conditions. Il ne doit pas parler du mouvement de la... Il doit parler du mouvement de la Terre comme simple hypothèse, et il doit donner la parole aussi aux défenseurs du géocentrisme. Eh bien, il produit son livre, je ne rentre pas dans les détails. On peut le lire, vous avez peut-être vu, mais le Nouvel Observatoire sort des pavés régulièrement, la psychologie, la philosophie, machin, truc, chose, dans lequel c'est assez intéressant, j'ai acheté celui sur la physique, et il y a, c'est la physique par les physiciens. Donc on a des textes de Kepler, illisibles, de Galilée, très lisibles, il y a celui-là, ça coûte très peu cher, c'est assez intéressant d'avoir ces textes. Ces dialogues vont conduire Galilée à être jugé à Rome par l'Inquisition parce que, comme reproche finalement, c'est le fait qu'il lui avait été interdit de défendre les théories de Copernic et il les a défendues. Il est condamné à la prison à vie pour grave suspicion d'hérésie. Ces dialogues sont censurés et interdits aux éditeurs de les publier, tous ceux-là et les suivants. Il n'a pas le droit de publier. Néanmoins, hors d'Italie, tout est publié, il n'y a pas de problème là-dessus. La condamnation de Galilée, il n'a jamais été emprisonné, il a été, disons, assigné à résidence dans une de ses résidences, d'abord à Sienne, mais surtout dans sa propre maison, à Arcetti, c'est au sud de Florence. Là, il continua des recherches, il devint aveugle à peu près vers 38, il ne voyait pratiquement plus rien. Et il a fait publier à Leiden le discours et démonstration mathématique concernant deux nouvelles sciences. Et ce travail, c'est le début de la dynamique. Il est mort le 8 janvier 1642. Le jugement de l'Inquisition fut annulé en 1992. Il n'a pas été complètement réhabilité. J'avais oublié de passer une des représentations. Il y en a mille, des représentations de Galilée devant le Saint-Office. C'est comme ça qu'on appelait l'Inquisition. D'autres représentations de Galilée. Alors, en guise de conclusion, sur le sujet finalement, Galilée peut être considéré comme l'inventeur de la science au sens moderne du terme, car il privilégie deux dimensions. J'ai mis une terre là. Je laisse celle-là. La mathématisation de la description de la nature. Il n'est pas le premier, mais c'est différent, parce que lui, c'est le monde réel dont il parle. Dans Ils Stagiator, l'essayeur, un bouquin de 23, il dit, alors c'est une phrase qu'on retrouve partout, elle est essentielle, « La philosophie est écrite dans ce livre immense, perpétuellement ouvert devant nos yeux, je veux dire l'univers. » Mais on ne peut le comprendre si on n'apprend pas d'abord à connaître la langue et les caractères dans lesquels il est écrit. Il est écrit en langue mathématique, et ses caractères sont des triangles, des cercles et d'autres figures géométriques sans l'intermédiaire desquelles il est humainement impossible d'en comprendre un seul mot. Donc la nature est un grand livre. Ça, c'est pas nouveau. Hein. Le Moyen-Âge passe son temps à le dire. Il y a deux grands livres, les Saintes Écritures et la nature. Mais ce livre est écrit en caractère mathématique, là, c'est nouveau. On voit ce qu'il a dit d'ailleurs, ce sont des figures géométriques, il ne parle pas d'équations. Hein. Ce sera vers la fin du siècle qu'on va trouver les équations, Pavre, Leibniz, etc. Remarquons aussi sur un autre qui est beaucoup moins moderne, Kepler, qui est beaucoup moins moderne que Galilée, il fera aussi une représentation qui est tout à fait admirable, je ne l'ai pas donné, mais où on voit les planètes s'assembler avec des figures géométriques, des volumes géométriques. C'est tout à fait extraordinaire le sens qu'avaient ces gens de la géométrie, finalement. Deuxième chose, l'expérimentation. Avant, il y en a peu. Une partie qu'on trouve expérimentale, c'est l'optique arabe. Mais en fait, ils font aussi du travail sans expérimentation. L'idée dominante, donc, c'est bien qu'on observe la nature. L'idée de manipuler est neuve au début du XVIIe siècle. Elle devient acceptable sans doute parce que les activités manuelles, chez les Grecs en tout cas, ce sont des activités serviles. Platon n'a jamais eu idée de faire quelque chose avec ses mains. Au Moyen-Âge, pour les moines, il y avait les frères Convers pour travailler. Eux, ils lisaient, ils réfléchissaient, ils produisaient les choses de l'esprit. Avec l'Italie de la Renaissance, c'est un autre monde qui arrive. C'est une bourgeoisie d'artisans, de commerçants, qui va commencer à être considérée. Elle est reconnue. On peut penser à un parallèle avec cela. Galilée parle dans les Nouvelles Sciences, je l'ai cité tout à l'heure, de l'arsenal de Venise, hein, où il va trouver des idées et il va voir comment sont résolus les problèmes. On peut penser que c'est à l'arsenal où depuis tout temps on hisse les bateaux sur des pentes inclinées qu'il a fait l'analogie avec son système pour juger de la chute des corps, de mettre quelque chose d'incliné. On peut le penser, c'est pas écrit. Nous pouvons penser aussi que c'est la jonction du monde idéal des mathématiques et du monde matériel des machines qui fonde cette science nouvelle à cette époque-là. Jusqu'à là, je l'ai déjà dit, je le répète, la science n'a servi à rien. Les esclaves grecs construisaient des bateaux sans savoir lire. Ils ne connaissaient pas les éléments d'Euclide. Ils n'en avaient pas besoin, de toute façon, puisqu'ils travaillaient avec des méthodes empiriques. Elle sera utile après Galilée. C'est à cette période qu'on affirme qu'elle va l'être. Bacon dit « Savoir, c'est pouvoir ». Francis Bacon, cette fois-ci. Descartes, dans le discours de la méthode, en 1637, l'homme devrait se rendre comme maître et possesseur de la nature. c'est un programme, tout cela. C'est deux siècles plus tard qu'arrivera les effets de la science, qui commenceront avant, bien sûr, mais c'est deux siècles plus tard, massivement, avec en tout cas la révolution industrielle, l'électricité, et la thermodynamique, donc pour la révolution industrielle, qu'arrivera la science dans la technique. Voilà, merci. Le tombeau de Galilée qui a été édifié par Vincenzo Viviani. Il a été avec lui. On l'a soupçonné d'être un espion du pape pour vérifier ce que faisait Galilée. Et en fait, il n'a jamais dû espionner. Et c'est devenu un mathématicien brillant qui a créé la fenêtre de Viviani. Des choses comme ça. Bon, a priori, je n'ai aucun rapport avec ce mathématicien brillant.
Appris beaucoup de choses. Maintenant, je vais demander ici à quelques scientifiques dans l'assemblée si quelques-uns auraient des questions à poser à notre ami qui a développé son sujet avec une très brillant sujet. Alors, si vous avez des questions à poser, il est temps de les poser. Si toutefois, vous permet de poser des questions.
Oui,
dans Santa Croce
à Florence, quand on entre à droite.
On dit pas Santa Croce.
On dit quoi?
Santa Croce.
Oui, enfin, les affaires de religion et les affaires de latin et d'italien, c'est Marie. Il a été édifié presque un siècle après la mort de Galilée. Hein. L'autorisation est venue très tard. Au moment où l'Église, finalement, abandonne le géocentrisme sans le dire.
La Lune, quelle différence?
Oui.
C'est autre chose. Enfin, sans ces gens-là, ils étaient utiles, nécessaires. Le développement était...
Oui, Newton dit qu'il trouve parce qu'il est sur les épaules de géants. Il parle effectivement de Copernic, de Galilée, de Kepler et d'autres. Il est ici. Bien.
Voilà. Personne n'a envie de parler. Tout le monde est là pour parler.